23. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
À cause des tentes sportives, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque. À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Les Affamés avec Félix-Antoine Audet et Azilis Pautier sur les ondes de Chiz 94.3.
Bon. Comment je vous dirais bien ça? On se fera pas de cachette, je vais utiliser le plus grand cliché de l'histoire de la radio. La magie du direct, hein? Vous venez d'entendre. J'ai un bon chat dans la gorge. J'ai aucune idée pourquoi. Ça allait bien il y a 5 minutes.
Oui, il est apparu juste avant.
Mais là, il veut vraiment pas partir. Donc, je m'excuse d'avance pour ces quelques petites toussades que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Heureusement, on a beaucoup d'extraits audio aujourd'hui.
Oui,
fait que
ça va t'aider un peu.
On va se prendre des petites pauses avec ça. Non, ben, commençons par le commencement.
Oui.
Bon midi. Bienvenue aux Affamés. Félix-Antoine Audet, Azilis Pautier qui vous accompagne pour la prochaine heure et demie en actualité et en divertissement. Très heureux d'être en votre compagnie. Merci d'être à l'écoute. On a un programme bien rempli, comme à l'habitude. Notamment, le président du SPUL, Louis-Philippe Lampron, sera avec nous à 12h30. Notre habituel chroniqueur économique du mercredi, Nicolas Leclerc, qui est avec nous à 12h45. Et je veux m'excuser peut-être pour l'émission d'hier. Il y a eu un certain enjeu qui a causé l'émission de ne pas avoir eu lieu. Ça ne devrait pas se reproduire. On se retrouvera normalement sans problème mercredi prochain midi. Pour l'instant, très heureux d'être accompagné de ma chère co-animatrice Azilis. Comment vas-tu?
Ça va et toi, Félix?
Ah, ça va bien. Est-ce que t'as une envie soudaine de t'acheter un billet d'avion aller simple pour les rues de Paris?
Par curiosité, oui.
Oui, on va en parler d'ailleurs parce que...
C'est un peu le bordel, là, ce moment.
C'est vraiment le bordel. Je sais que j'ai pas l'habitude de trop toucher aux sujets internationaux, mais je pense que, ne serait-ce que pour l'aspect divertissement seulement, ça vaut la peine d'en parler. Ça va venir un petit peu plus tard. Évidemment, on parle du dossier des retraites en France,
encore une
là,
fois, oui.
Qui continue de faire parler avec raison.
Oui.
Mais avant toute chose, on parle de choses... qui, ben oui, gardez-le, disons-le comme ça, qui font jaser. Vous l'avez probablement déjà entendu. Si c'est pas le cas, ça va venir dans quelques instants. Soyez patients. Cette fameuse publicité lancée par le gouvernement du Québec afin d'encourager la protection de la langue française. Une publicité qui pourrait être décrite de la façon la plus simple comme profondément malaisante.
Très malaisante, oui.
On va en discuter dans quelques secondes. Avant toute chose, je pense que c'est important. Je vous laisse l'écouter vous-même.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Et là, la partie qui se termine avec la fin musique dit « Au Québec, le français est en déclin ». Donc, une publicité sur la protection du français. Première question qui nous est venue, et je pense que tu avais la meilleure question, Aziliz.
Pourquoi le faucon pèlerin?
Pourquoi un faucon pèlerin? Est-ce un animal emblématique du Québec depuis la semaine dernière?
Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de cet animal ici avant, pour l'instant.
On en a, mais bon. Rendu là, faisons le castor, je sais pas, là, soyons dans les stéréotypes, parce que c'est ça, là, c'est des stéréotypes qu'on propage. Comprenez-moi bien. Il y a un enjeu de protection du français. Il y en a un. Le message en tant que tel est pas idiot. Mm. La façon de le propager, ça me fait penser à la série. Une série la plus sketch possible. Excusez-moi, là, je viens de dire le mot sketch. Je suis un bon exemple de quoi ne pas faire. Là. Mais la série la plus bas de gamme. Peu de budget, qui s'adresse aux adultes qui veulent rire des nouvelles générations.
Mm-hmm. Je vois pas. Là.
Le personnage le plus stéréotypé possible que tu peux écrire d'un jeune. Mm. Ça ressemble vraiment à une écriture stéréotypée d'un jeune qui parle par un adulte qui a pas parlé à un jeune depuis 25 ans.
Oui, j'ai un peu l'impression que c'est le vieux grand-oncle que tu vois pas souvent,
oui,
qui se dit « Allez, on va faire une pub pour préserver le français ».
Ça fait exactement ça, là. Oui. Pour moi, ce serait le même genre de personne qui créerait une pub sur les dangers en voiture. Puis là, vous permettez-moi, comprenez-moi bien que je fais de la satire, là. Mm. Les dangers en voiture en disant « Oh my god, j'ai une fille, pis comme je sais pas conduire, j'ai mon cellulaire, TikTok, oh my god. » C'est la même personne qui aurait écrit cette publicité-là. Là.
Oui.
C'est vraiment, vraiment ça que ça me parle. Sauf que c'est joué par une voix hyper sérieuse et hyper dramatique, avec un faucon pèlerin. Peut-être qu'il y a comme une collection de publicités qui va sortir comme ça, puis la prochaine, ça va être genre, le castor, puis après ça, l'ours polaire, puis il va y avoir je sais pas, mais c'est... Tu sais, déconnexion complète et totale, là.
Ah ben là, c'est un niveau élevé. Et pourquoi, comme un documentaire animalier aussi, je comprends pas, mais...
Je crois vraiment que c'est un enjeu important, là, la protection du français. J'insiste profondément là-dessus. C'est pas l'enjeu qu'on veut ridiculiser ici, là.
C'est la manière de le défendre, quoi.
Pis c'est pas comme si on n'avait pas déjà vu que du côté du gouvernement du Québec, on était capable d'avoir des bonnes publicités. Là. Mm. Les publicités sur l'alcool au volant, les publicités sur les dangers au travail, avec Claude Legault, qui ont particulièrement marqué le Québec, les publicités sur la ceinture au volant, la vitesse au volant, qui ont réussi à frapper tellement fort qu'on a vraiment remarqué une diminution de ces comportements-là sur nos routes, entre autres, et au travail. Est-ce que quelqu'un qui, après avoir vu cette publicité-là, se dit « Ah, pas de maudit bon sens. » C'est vraiment la réaction d'une seule personne là, au Québec, a vu cette publicité-là, à part le vieux grand-oncle qu'on a dit, là, qui a écrit la publicité,
ça,
là, eux sont tous d'accord.
Oui.
Y a-tu vraiment une personne... À part les vieux grands-oncles qui écoutent cette publicité-là, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est... faut qu'on fasse quelque chose.
» Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même un service de com, de communication, etc. Et que ça passe devant les yeux de plusieurs personnes et que personne n'est fait « C'est bizarre quand même comme pub. »
Je n'arrive pas à voir comment on s'est rendu là, honnêtement. C'est parodiable au mieux, là.
Oui.
c'est la meilleure chose qui va en ressortir, c'est des drôles de parodies. Il n'y a rien d'autre que ça qui va être ressorti. Parce que, vous voyez, c'est le même genre de ton et d'expression qu'on utilise dans nos vidéos, justement, d'alcool au volant. C'est comme cette espèce de ton dramatique-là, moralisateur. Puis, je sais pas là, comment on aurait pu faire mieux. Comprenez-moi bien, si je travaillais en pub, là, j'aurais mes idées. Puis je suis convaincu qu'il y a bien des publicitaires aussi qui regardent ça, parce que j'en ai plusieurs dans mes réseaux de contact, puis qui trouvent ça malaisant à souhait. Mais clairement, l'angle stratégique, le choix de message... Tu sais, tu vises qui?
Le grand-oncle, c'est tout.
Mais tu sais, le grand-oncle...
genre, je sais pas si...
Il trouve déjà ça ridicule, puis il fait déjà attention à son français.
Oui, oui, oui.
As-tu vraiment un jeune qui utilise peut-être un peu un langage qui peut...
Oui, qui peut y ressembler un petit
d'une
peu
d'une certaine
encore.
Manière, là, en moins stéréotypé, mettons. Oui. Y a-tu vraiment un jeune qui va écouter ça et dire « Ah, oh, mon Dieu,
Ça n'a pas de maudit bon sens.
Oui. Ben, je pense que les jeunes vont plus faire une fixette sur pourquoi c'est construit comme ça que sur le vrai message de la pub.
Comme on est en train de faire présentement. Là.
C'est ça.
Je reprends l'exemple là, des publicités de vitesse ou d'alcool au volant. Là. Une, je m'en rappellerai toujours. Je me rappellerai toute ma vie de cette publicité-là. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs Québécois qui se rappellent encore de cette publicité-là. Azélise, tu ne l'as pas vue, elle n'est plus sur nos ondes. C'est deux conducteurs qui arrivent à un stop.
OK.
Et il y en a un qui arrive à grande vitesse, va brûler le stop, et à une demi-seconde de frapper la voiture. Le temps s'arrête, et les deux conducteurs sortent de l'auto pendant que le temps est figé pour se parler. Puis t'as le conducteur qui fait juste faire son virage normal pendant que l'autre arrive en grande vitesse en brûlant son stop, qui va le frapper et dit « Fais quelque chose, s'il te plaît, ma fille est dans l'auto derrière. » Et t'as le conducteur qui dit « Mais là, je peux pas, je peux plus rien faire, il est trop tard. » Puis rentre dans l'auto, le crash a lieu. Traumatisante, comprenez-moi bien, là. Il y a une raison pourquoi je l'oublierai jamais.
Mais efficace. Mais efficace, oui, c'est ça.
Efficace. Tu sais, c'est ça l'enjeu souvent, là, nos publicités d'alcool au volant et autres. La grande critique, c'est souvent, ben voyons donc, on va traumatiser tout le monde derrière ça. Peut-être. Mais après ça, tu regardes ça, puis si t'as déjà conduit un peu chaud, ou t'as déjà conduit un petit peu trop vite, ou t'as déjà brûlé des stops en te disant c'est pas plus grave que ça, il y a personne qui a été blessé, puis tu vois ça, puis tu te dis tabarouette. Ouais, j'ai été un imbécile. Il y a personne qui écoute ça en se disant ah, moi, on dit que je parle mal. Oui. Parce que personne qui parle de même.
Oui.
C'est. Tu sais, juste. C'est sur le bout de ma tête comme ça, là, ça me sort comme ça. Me semble, tu sais, des extraits de vidéos de jeunes actuellement, là, maintenant, qui parlent un français absolument horrible, monté en boucle, quelque chose comme ça, de dire, regardez, là, c'est ça, là, c'est la réalité maintenant, là.
Ce serait pas dur à faire en plus.
Ce serait pas si dur que ça. Là, t'es déjà un petit peu plus en train de parler réellement du vrai enjeu plutôt que d'essayer de nous stéréotyper ça. Il y a personne qui écoute ça puis qui se dit vraiment, oui, les jeunes parlent de même. Encore une fois, à part le vieux grand-oncle. Là. Pauvre lui, on le tape sa marquillette aujourd'hui, là, le vieux grand-oncle. Mais c'est vraiment, vraiment d'un ridicule assumé qui n'amènera probablement rien de bon tant qu'à moi. C'est bien dommage parce que c'est un enjeu qui a besoin d'être discuté, d'être abordé, mais c'est clairement pas la bonne méthode. C'est clairement pas la bonne manière. On avait un autre extrait pour vous aujourd'hui, pour un sujet tout autre. Continuons à parler, bien évidemment, là, de l'horrible tragédie d'Amqui. Si vous n'avez vraiment pas vu, c'est surprenant. Résumons quand même. Un homme à bord d'une camionnette F-150 dans le village d'Amqui, petit village comptant 6000 âmes, a décidé d'embarquer sur le trottoir et de frapper une douzaine de personnes environ. Pour être précis, il y a eu deux morts, un dans la soixantaine, un dans la soixante-dizaine, 9 blessés, dont des enfants, un étant même âgé de moins d'un an. Absolument terrible, terrible. Encore plusieurs personnes qui sont blessées gravement, qui sont traitées notamment au CHU de Québec, qui ont été transportées. Tragédie, ça c'est sans compter. Juste pour préciser, là, j'ai comme politique ici à CHIS de ne jamais le nommer quiconque a agi de la sorte. Donc c'est pas une question d'oubli, ou c'est vraiment volontaire. Je ne compte pas vous dire son nom. Pour la simple chance et possibilité qu'il fasse ses actes En connaissance de cause et en volonté, comme ça s'est déjà vu, d'avoir une certaine popularité qui s'en suive. C'est probablement pas ça dans le cas, quoi qu'on ne sait jamais. Donc, juste par prudence, je n'irai pas. Donc, cet homme-là, qui, selon toute vraisemblance, on n'a pas de confirmation, a réagi de façon délibérée, selon la police, selon tout ce qu'on apprend, a décidé de frapper sans aucun égard ses victimes. Absolument horrible, mais j'ai un ancien collègue, un journaliste qui s'est rendu à Amqui, qui était au palais de justice quand il y est rentré, qui a rapporté, alors qu'il se faisait huer par la population, que la réaction de cet homme était de sourire. Un petit sourire narquois envers les gens qui le huaient. Là, au début, les premières analyses supposent, encore une fois, on est vraiment dans les suppositions, qu'il y aurait des troubles psychologiques en lien avec cet homme. lors de sa comparution au tribunal, fait intéressant, l'avocat n'a pas demandé d'évaluation psychiatrique pour son client. Évidemment, là, est-ce qu'il y a une raison ou autre? Je suis pas un expert légal, il y a peut-être une raison logique à ça. Peut-être qu'il constate tout simplement pas que c'est un enjeu psychiatrique. Ça soulève des doutes là-dessus. Et ça a été retrouvé aujourd'hui, hier soir. Hier soir, son compte TikTok a été retrouvé. On était supposé vous faire jouer un extrait de la vidéo de son compte TikTok qui avait été publié quelques heures seulement.
Mais elle a été supprimée.
Et voilà. Est-ce que c'est un ami qui a pris possession du téléphone? Est-ce que c'est les policiers qui ont supprimé le compte? Est-ce que c'est TikTok qui a supprimé le compte? Parce que il y avait une activité qui commençait à augmenter rapidement. Les gens commentaient sur ces vidéos post-événement, post-tragédie. Donc, peu importe comment ça s'est passé, les vidéos ont été supprimées. On ne peut pas vous la faire jouer. Elles étaient encore en ligne là, il y a 45 minutes. Elles ne le sont plus. C'est la vie. Et dans sa vidéo, c'est honnêtement, là, pour moi, ça me semble clair. Je ne suis pas psychologue. Prenez tout ce que je dis avec un grain de sel. Ça me semble clair qu'il y a des enjeux de santé mentale qui sont présents là. Ce n'est pas une personne qui semble entièrement présente, entièrement là.
C'est ça. Bah, pour décrire un petit peu ce qui se passe, il y a beaucoup de propos qui sont très différents, pas forcément cohérents entre eux. On a du mal à comprendre ce qu'il dit.
Oui.
Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on pouvait entendre dans cette vidéo.
C'est très compliqué à entendre. Là. On parle des postes de police chinois, des syndicats, du crime organisé, de coke coupé avec de la vitre blanchie. Beaucoup de choses très dures à suivre. Là.
Oui.
Et s'ensuit ma deuxième observation. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Prenez le tout avec un grain de sel. Il y a beaucoup de choses dans son langage qui, pour moi, s'apparentent à du langage complotiste.
Il y a beaucoup de liens qui semblent faits entre des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir, etc. Ouais. C'est ça qui fait aussi penser à ça.
De vision, puis tu sais, ça...
Oui.
C'est... Il parle notamment là, de s'être obstiné sur Facebook à propos d'une affaire, puis que soudainement, là... Les gens avaient peur d'être exposés ou quoi que ce soit, que la mafia avait peur d'être dénoncée. T'sais, c'est vraiment pas clair, comme je dis, c'est très confus, là. Mais cette espèce de rhétorique, hein, de complot, de crime derrière chaque événement semblait présente. Moi, c'est ce qui m'apparaissait très clair. Évidemment, là, encore une fois, je ne suis pas un analyste, là. Je veux pas me prononcer de façon trop importante, mais ça me semble assez clair. J'ai hâte de voir la suite des choses, la suite de l'enquête, si ça confirmera un peu cette hypothèse qui me semble apparente. Là, on verra bien. Mais c'est ce qui m'amène à terminer là-dessus. Parce que c'est ça, là, on est en train d'essayer d'expliquer quelque chose qui semble inexplicable. C'est cette tendance qu'on a, cette fâcheuse tendance de vouloir tout rationaliser alors que ça n'a pas nécessairement lieu d'être. Puis on est probablement dans le tort, là, dans le trois quarts des choses qu'on vient de vous dire dans nos suppositions. Savez-vous quoi? Ça se peut très bien. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de se l'expliquer? C'est pas toujours facile à dire. On dirait qu'on a toujours besoin d'un coupable, toujours besoin d'une raison pour expliquer ce qui est arrivé.
Ouais, c'est souvent comme ça dans des tragédies de ce genre. C'est juste qu'on a... Notre cerveau a besoin de se trouver une raison de pourquoi c'est arrivé alors qu'il n'y en a pas toujours et que parfois juste c'est...
C'est
comme ça, quoi.
Le mal pour le bénéfice du mal.
C'est ça.
Je pense à la tragédie de Laval. Toujours aucune explication. Tu sais, oui, il y a la théorie de encore une fois, de la psychose parce qu'il s'est déshabillé un peu après puis il sanglait un peu en panique, mais...
On n'a aucune certitude et c'est d'autre. Pas sûr qu'on en aura un jour. C'est ça qu'il faut dire aussi.
Il n'y a rien d'autre dans sa vie aux alentours qui indiquait ça. Tu sais, dans le cas de l'individu qui a frappé à Amqui des gens. Pas mal tout ce qui est révélé autour de ça nous indique que c'était connu qu'il y avait des problèmes, qu'il était pas stable. Mais il y a des cas comme celui de Laval qu'on veut expliquer à tout prix. On ne peut pas expliquer. C'est bien malheureux, mais ce désir-là, clairement, qui est encore fort, ce qui nous amène à se questionner sur la raison des agissements du présumé meurtrier d'Amqui. En espérant que la lumière va être faite dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, on verra bien. On va prendre une première pause musicale. C'est un peu étiré dans ce premier bloc. Au retour, on parle de la du fameux débâcle de la SAC, ainsi que de la drogue du viol qui continue de sévir dans les bars du Québec.
Mais jusqu'à la dernière goutte, ça va être mon sang. Mon sang, mon sang, mon sang, pour toujours. Mon sang, mon sang, mon sang, pour toujours. Mon sang, mon sang, mon sang, pour toujours. Mon sang, mon sang.
OK, un Big Mac, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Félix-Olivier Rochon-Côté sur les affamés, c'est encore meilleur.
Ah, oh, c'était proche.
Je me suis trompée.
C'est un autre Félix, c'est correct.
Oui, j'étais perturbée, j'ai vu Félix, j'ai cliqué. Excuse.
Eh bien, on verra si je te pardonne, mais c'est pas toujours, c'est pas encore fait. Azélis, là, donc tiens-toi bien.
Je me tromperai pas à la prochaine.
Je te surveille. Midi 21 sur les ondes de Chiz 94.3, c'est bien Félix-Antoine Naudet et non Félix-Olivier Rochon-Côté et Azélis Potser qui m'accompagne à la console. Je voulais juste préciser que c'était bien ton
voilà,
meilleur.
Voilà, que c'était moi qui... c'est non, fait, ouais. Bando.
Dans quelques minutes, on va accueillir le président du syndicat des professeurs de l'Université Laval qui sera avec nous, Louis-Philippe Lampron. Pour l'instant, je veux... Disons-le comme ça va être, là. Procéder à une bonne vieille montée de lait, qui, je crois, est bien justifiée. J'ose croire. C'est un article de la presse sous la plume d'Émilie Bilodeau, parlant du fléau de la drogue du viol au Québec. GHB, pour les intimes, entre guillemets. Phénomène qui continue de sévir. Il y a plusieurs témoignages qui sont rapportés dans l'article de la presse. Savez-vous quoi? J'ai même pas besoin de vous les raconter. Vous en connaissez. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez un visage déjà en tête. Vous avez une soirée déjà en tête. Vous avez déjà un léger... Si c'est pas vous-même, personnellement, je suis désolé si c'est le cas. C'est pas nouveau, là. C'est vraiment pas nouveau. Mais apparemment, mercredi, c'est là que l'Assemblée nationale a décidé de se réveiller un peu et de voter une motion de façon unanime, comme quoi c'était un enjeu considérable, un fléau. C'est le langage qui a été utilisé à travers le Québec. Un des plus grands problèmes avec le GHB, ça, c'est pas un enjeu qui est la faute de personne, bien malheureusement. C'est comme ça que c'est. Mm-hmm. C'est une drogue qui entre le système, qui quitte le système en quelques heures seulement. Très dur à analyser. Très dur. Donc, on croirait que comme ça prend de la vitesse, un déploiement rapide, de l'efficacité pour être capable de la prendre et de réaliser qu'on a été intoxiqué, qu'il y a une analyse qui a été faite qui peut le prouver. On croirait que tous les hôpitaux sont bien équipés pour qu'on puisse agir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, afin de pouvoir analyser, de pouvoir documenter, de pouvoir avoir une analyse complète, d'aider les corps policiers à pouvoir travailler avec ces informations-là. Ben non. Mais non. Ce serait trop simple.
Oui, trop beau pour être vrai.
Puis là, comprenez-moi bien, encore une fois, là, je ne suis qu'un animateur radio dans sa chaise en train de chialer dans un micro. Là. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin. De ce que je comprends, c'est une analyse qui est complexe. Ce n'est pas un processus qui est simple. Mais justement, si c'est pour être un processus complexe, si c'est pour être un processus qui n'est pas simple, il faut s'assurer qu'il soit en place au plus d'endroits possible pour que ce soit le moins justement complexe. C'est encore plus problématique si déjà le processus est complexe, puis tu l'as seulement à quelques hôpitaux à travers la province. Ben là, écoute, le temps qu'on le ramasse, peut-être qu'il sera plus là, rendu là, ou ça vaut peut-être pas la peine parce que t'es en sécurité de toute façon, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, t'es chanceuse, pas besoin de faire ça. C'est ce qu'on se dit en ce moment.
Oui. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est qu'en juin 2022, le Parlement en a déjà discuté et ils avaient décidé que ce serait gratuit de faire ces tests-là. Et du coup, à quoi ça sert d'avoir des tests gratuits s'ils ne sont pas disponibles partout, quoi?
Parce que c'est ça qu'on entend souvent, une personne qui se retrouve à l'hôpital après une intoxication au GHB, les médecins, ils sont vraiment réticents à offrir des tests d'analyse. Même si c'est gratuit, même si ça peut être accessible, parce qu'ils disent « Ah, c'est très complexe, quoi que ce soit ». Donc, même quand c'est accessible, même quand c'est à Montréal, par exemple, proche d'un des centres, même quand c'est gratuit, il y a cette réticence à offrir le test. Pourquoi? Fouillez-moi pourquoi, je ne le comprends pas. Mais si on n'arrive pas à documenter ce fléau-là, j'insiste sur le mot fléau. Tu sais, quand je vous ai dit que j'ai pas besoin de donner d'exemple parce que vous en connaissez un, c'est pas normal que tout le monde connaisse quelqu'un qui a été drogué au GHB. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, 16 mars 2023, devrait être accepté par moi, vous, votre voisin, votre mère, votre père, votre oncle, même votre vieux grand-oncle là, dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a personne qui devrait accepter ça aujourd'hui, 16 mars 2023. Pourquoi on le fait? Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arriverai jamais à l'accepter. Je peux pas croire qu'on peut pas bouger plus vite que ça. Tu l'as dit, on en parlait en juin 2022. On en parle encore du côté de l'Assemblée nationale, du côté en mars 2023. Maintenant, les mouvements, il faut qu'ils soient là, là. Ça n'arrêtera pas. Ça se poursuit. C'est un enjeu pour les corps policiers qui n'arrivent pas à avoir les analyses. C'est un enjeu pour les femmes qui sont victimes. Puis oui, je vais dire les femmes parce que 9 fois sur 10, c'est des femmes qui sont victimes de ne pas pouvoir faire une simple activité entre amis sans devoir avoir un processus en 10 étapes de sécurité à chaque fois qu'ils prennent un verre. Ça, c'est la normalité. En ce 16 mars 2023, apparemment, c'est la normalité du côté de l'Assemblée nationale. On va voter une motion qui n'a aucun pouvoir législatif. On va en rediscuter un an plus tard quand il va y avoir une autre histoire choquante qui va arriver.
Oui, mais là, ce que je trouve le plus surprenant, en effet, ça n'a pas de pouvoir législatif. Et ce qui est dit pour l'instant, c'est de demander à la CAQ d'évaluer la possibilité que les tests soient disponibles en pharmacie. C'est quand même très long, quoi. Enfin, ça veut dire qu'ils vont évaluer, pour voir si c'est possible. C'est encore bien 6 mois, 1 an à attendre juste que les tests soient disponibles. C'est énorme.
On va attendre que la tendance, puis ça, tu peux bien en témoigner, que la tendance sera européenne, parce que c'est pas juste français, des seringues avec le GHB s'en viennent aussi, avant d'agir. C'est ça. Parce que là, si vous n'êtes pas au courant, ça, c'est une tendance qu'on retrouve depuis à peu près quoi? Un an et demi, deux ans?
2 ans maintenant, à peu près.
2 ans qu'on commence à voir ça en Europe, tout particulièrement. Dans des bars, dans des festivals. Des gens qui se promènent avec des aiguilles. Des fois vides, des fois avec du GHB.
Et qui s'amusent à piquer les gens.
Piquons les gens. C'est ça, là. Faut-tu attendre que ça arrive au Québec avant qu'on se mette à agir? Je commence honnêtement à croire qu'apparemment, c'est la seule chose qui va motiver d'une façon ou d'une autre à agir rapidement. Parce que c'est pas juste d'agir, c'est d'agir rapidement. Ça fait déjà longtemps que ça aurait dû être fait. Est-ce qu'on peut se bouger, s'il vous plaît? Pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. t'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie!
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Desjardins, c'est un monde de possibilités de carrière. C'est plus de 800 types d'emplois dans plusieurs domaines au-delà de la finance comme l'éducation, les technologies de l'information et les communications. Évoluez au sein d'une entreprise qui vous permet de vous réaliser autant dans votre vie professionnelle que personnelle. Avec des centaines de millions remis aux membres et à la communauté par année, chez Desjardins, vous ne bâtissez pas que votre carrière, vous bâtissez plus grand que vous. Trouvez un poste près de chez vous sur desjardins.com/carrière.
Aux très chers auditeurs du Chiz 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chillule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chillule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Chiz 94.3 FM.
Tell me why I do what I do. I just do it cause I just do it cause that's why. Excuse me, nigga, I'm about to drop a little something from my family, nigga. It ain't about the money, fuck them riches, keep it, nigga. But it's so lovely, nigga. Keep me running, grinding, and I'm on until the dining. Just to whip a Maserati, whipping up some cake and cherry. Lick it up, you call it dairy. Green is just another fairy. Mother Mary, help me, Mary. Choking up the shit is scary. Watch the ball like Halle Berry. Living praise on we are very, very. Submissive to the fullest. Slave away for the bitches. Get blessed home to the realest. Stay fearless, uh-oh. Submissive to the fullest. Slave away for the bitches. Get blessed home to the realest. Stay fearless, uh-oh. I fight it, I ride it, I lead it, I need it.
some more. We need them, we feel them, so give me, so give us some more. I bleed all this paper to show with my Venus, my flow. Striking the crowd on a cloud, I'm about that heavy flow. Calling my terror dome, I'm about to strike it home. I'm stepping on your bases, ain't no shame, here I go. Calling my terror dome, I'm about to strike it home. We stepping on your own with no shame, here we go. Here we go, heavy flow, I'm about to put it down. Have you screaming my name to all your neighbors here? This shit can cast some fear up in the atmosphere. The realest, the venom, the underground realm. You taking your freedom, can't ask you, just tell them. We feeding for freedom, but singing my cello. The jello, the booty, the bigger, the better. That real shit, that real thing, really mad. That little boy coming here, girl, when I was 8, man, I was so mad, I was so sad. I was never on the shit, man, but I never understood how that shit can ever go down. You're my homie, with your fake tan, with your fake bitch, with your side eye and a bow tie. I can see that, I can feel that. Never be that, never be wet, never be on point like an A-track. You're a B-track, I believe you're pig with a gun. Can you see that, can you see that, better believe that. I bleed every time I speak, I wrote the drum of the beat. With a fist for the chains, no food for your brain. From the village to the plains, I stay for the same. Stay for the same, stay for the same.
Stay for the same, motherfucker, hey.
These hoes be crazy, man. They tryna take my hand, but they don't understand. The color don't come off, I still say African. I still pray for my clan. They realize the venom, the underground realm. You taking your freedom, can't ask you, just tell them. We feeding for freedom, but singing by jello. The jello, the booty, the bigger, the better.
OK, un trio Big Mac, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Félix-Antoine Audet, c'est encore meilleur.
Midi 35 sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en compagnie toujours de ma chère co-animatrice Azélise Potter. Bonjour Azélise.
Bonjour Félix.
C'était si merveilleux, si doux. Il est midi 36 bien pile. Et par purement ma faute et un manque complet de communication, notre invité qui devait être en studio est au téléphone. Il est quand même avec nous, bien heureusement. Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval du SPUL, qui est avec nous. Bonjour, M. Lampron.
Bonjour, M. Audet.
Je m'excuse, hein, bien évidemment, de vous avoir dirigé à la mauvaise place. C'est des choses qui arrivent. Vous avez déclaré ce lundi la grève générale illimitée du côté des enseignants de l'Université Laval. Vous continuez les négociations. Où est-ce que nous en sommes présentement, selon vous?
Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Là, c'est-à-dire que le conflit de travail, les moyens de pression ont commencé le 20 janvier dernier avec un vote de grève où on avait donné un mois là, pour accélérer les négociations. Il y a eu un changement de posture à la table du côté de l'employeur à ce moment-là, avant le mandat de grève qui a été appuyé, rappelons-le, là, par 632 collègues à 96%. On avait littéralement l'impression que l'employeur ne prenait pas les revendications du comité de négociation au sérieux. Il semblait croire que le comité exécutif et le comité de négociation étaient composés d'excités qui étaient pas mal plus excités que les membres. Alors ça a changé beaucoup le rythme, mais malheureusement, on a continué à attendre un véritable blitz de négociation. Et donc, depuis le 20 janvier, les choses ont avancé. Il y a plusieurs choses qui ont été réglées en lien avec les revendications, les problèmes qu'on doit régler à la table de négociation. Mais il reste des morceaux importants là, à la table et malheureusement, on est encore assez éloigné en date d'aujourd'hui là, sur ces morceaux importants-là. Il y a un fossé là, qui sépare encore le SPUL et l'Université Laval.
Vous parlez de cette accélération qui a eu lieu au niveau des négociations à partir du 20 janvier. Là, oui. Vous venez de déclarer cette grève générale illimitée ce lundi. Est-ce qu'il y a eu un autre changement, selon vous, dans les négociations où on est toujours au même rythme, de la même façon, ça n'a pas changé grand-chose?
Ben, écoutez, c'est parce qu'il y a une question de stratégie. C'est-à-dire que l'Université Laval a rompu ses manières de faire par rapport aux dernières négociations. Au préalable, ça se faisait vraiment à l'interne. C'est-à-dire que c'était des membres du vice-rectorat et de la des doyens ou de la direction de l'Université Laval qui composait le comité de négociation de l'Université Laval. Et en face, c'était la même chose pour le syndicat, c'était des professeurs, etc. Cette négociation-ci, l'Université Laval a fait le choix de confier à l'externe la responsabilité d'être porte-parole, en fait, donc responsable du comité patronal à un avocat de pratique privée. Et donc, ça vient avec des problèmes parce que cet avocat-là a peut-être de l'expérience en matière de relations de travail et de négociation, mais c'est sa première expérience dans le monde universitaire. Alors, il y a beaucoup d'éléments en lien avec les revendications, notamment liberté universitaire, comment est-ce que la direction se distingue à l'Université Laval et dans les universités d'une entreprise de fabrique de saucisses, par exemple, etc. Et donc, c'est sûr que ça a contribué à ralentir beaucoup le rythme des négociations. Et là, même après le 20 janvier, là, je vous dirais qu'on espérait un véritable blitz, une accélération presque automatique, presque instantanée pour éviter un conflit de travail, le conflit de travail dans lequel on se trouve enlisé actuellement. Malheureusement, l'employeur a tardé a attendu 20 jours avant de rajouter des rencontres de négociation. Alors, le deuxième moment là où il y a eu un changement supplémentaire qui a permis de régler des choses, c'est le deuxième mandat de grève. Cette fois-là, les collègues étaient encore plus nombreux. Alors que c'était déjà un record le 20 janvier, là, ils étaient 859 à se présenter en Assemblée générale le 2 mars pour voter cette fois-là un mandat de grève générale illimité si on s'entendait pas pendant la semaine de lecture à être déclenché à partir du 13 mars. Et ça a été voté dans une proportion de 94,5%. Alors, pendant la semaine de lecture, il y a des éléments qui ont été réglés, mais là, on frappe vraiment un mur. Là, on va voir comment ça va se passer. Là, il y a une pause de négociation aujourd'hui qui a été suggérée par le conciliateur qui est à la table. On doit reprendre les négociations demain. Mais grosso modo, ce qui bloque toujours à la table, c'est la question de la surcharge de travail et l'embauche nécessaire de 100 collègues. La question, bien sûr, salariale, à la fois inflation et rattrapage salarial par rapport aux moyennes du U15 et des universités comparables. Et le dernier élément, là, c'est très, très étonnant dans ce statut de négociation, mais la question de la liberté universitaire, ça c'était même au cœur des états généraux sur l'université post-COVID. Là, c'est une revendication qui a été appuyée presque à l'unanimité des collègues il y a déjà un an et demi de ça. Et on est toujours en train de s'obstiner à la table. Là. C'est-à-dire que les modalités pédagogiques puis le contenu des cours, ça doit pas relever là, de la direction de comité de programme là, très restreint, mais bien de l'assemblée des différentes unités, donc des professeurs. Alors voilà là, les trois gros morceaux sur lesquels ça achoppe toujours à la table.
L'université a déposé une offre ce lundi. On n'arrivait pas à trouver dans nos recherches. Est-ce que votre contre-offre qui était attendue hier a été déposée?
Elle n'était pas attendue hier. Notre contre-offre, en fait, okay. Ils l'ont déposée dimanche, l'offre en question, et on a, nous, déposé une contre-offre le lendemain.
Ah, bon.
Et cette offre-là, on l'attendait depuis longtemps. Ça faisait des semaines qu'on attendait. C'est la première fois que l'Université Laval, même si c'est dans le cahier des charges depuis le 27 mai, nous faisait une proposition en lien avec le plancher d'emploi, en lien avec l'augmentation de professeurs. Là, ils ont tardé jusqu'à dimanche de la semaine dernière avant de nous faire cette proposition. Donc, à la veille du déclenchement de la grève générale illimitée. Et depuis, nous, on a déposé la contre-offre tout de suite. Et là, on est en train d'échanger pour trouver la fameuse voie de passage.
Il y a deux jours, j'étais en entrevue avec la vice-rectrice de l'Université Laval. Je vais vous poser essentiellement la même question que je lui ai posée, parce qu'à force de côtoyer des étudiants au sein de mon travail à Chiz, c'est pas mal la préoccupation numéro un que je vois du côté des étudiants et qui les fâche autant du côté de la direction que du côté des enseignants. Il y en a plusieurs qui commencent à être inquiets de devoir allonger leur session. Il y a conflit avec plusieurs que ce soit un stage, un emploi d'été, une session d'été qui pourrait aussi arriver. Des étudiants étrangers, comme c'est le cas de ma collègue Azélis Potier,
qui vont devoir rentrer à un moment.
À un certain moment devrait retourner dans son pays. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations du côté des enseignants? Est-ce qu'on prend ça en compte dans vos négociations?
Depuis le jour 1, on prend ça en compte. Et c'est pour cette raison-là, notamment, qu'à chaque moment de la négociation, on a donné la chance à l'employeur de faire les choses plus rapidement que lentement. Malheureusement, là, puis je comprends là, que ça peut avoir l'air d'une bataille là, pour chaimer la partie adverse, etc. Mais si on regarde véritablement comment on a agi depuis le début de la négociation, qui n'est pas une négociation comme les autres, hein. C'est une négociation qui a été suspendue en raison de la COVID-19. On aurait dû négocier des problèmes importants en 2019. La COVID a fait en sorte qu'on en avait déjà les deux côtés de la table, par ailleurs, plein nos bottes pour maintenir l'université à flot, puis basculer tout ça en ligne pour faire face à la crise de la COVID-19. Et donc, on a suspendu les négos, mais ce qui était clair dans la lettre d'entente, c'était de dire Dès qu'on va être prêt à renégocier, on va recommencer à négocier. Et au plus tard, on va négociera, on commencera à négocier le 1er septembre. Nous, on était prêt le 27 mai 2022. On a envoyé notre cahier des charges. On l'a rendu public. Notre comité de négociation était prêt à négocier parce qu'on savait justement que les problèmes qu'on devrait régler dans le contexte de cette négociation-là étaient très importants. C'était une négociation chargée. Alors, on a levé la main, on s'est tourné vers l'université, on a dit « Commençons à négocier tout de suite, en fait, parce que c'est des gros morceaux, puis allons-y rondement pour éviter un conflit de travail. » L'université a attendu au 28 septembre avant de nous permettre une première rencontre de négociation. Alors ça, c'est des moments de négociation qui ne peuvent plus revenir. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on est confronté, comme ça a été le cas jusqu'au 20 janvier, à une fin de non-recevoir de la part de l'employeur sur les problèmes qui structuraient notre cahier des charges, peut-être pour des raisons stratégiques ou de mauvaise lecture politique, ils avaient l'impression, je le disais tout à l'heure, qu'on était plus motivés que nos membres, puis que c'était pas des problèmes qui étaient partagés par notre base. Mais je veux dire, cette période de négociation-là, et le fait de non-recevoir en disant non, ça, ces problèmes-là n'existent pas, et on ne veut rien faire pour vous donner ce que vous demandez pour régler ces problèmes-là. Le grand problème, c'est qu'en matière de relations de travail, du côté des salariés, du côté des professeurs, on a peu de moyens de mettre de la pression quand il y a une fin de non-recevoir comme celle-là, autre que la grève, en fait. Alors, dès le 20 décembre, dès qu'on s'est rendu compte que, oh, ça achoppe à la table, alors il est possible qu'on doive, à terme, pendant la session d'hiver, faire la grève, donc faire un arrêt de travail, on s'est mis à essayer d'accentuer la pression. On a annoncé un mois d'avance qu'on allait tenir une assemblée générale où on allait discuter de la grève. Ça n'a pas permis l'accélération des négociations. Les négociations, on a senti un changement de posture, puis encore une fois, pas suffisamment rapide. Quand on a eu un vote de grève à 96% en donnant un mois pour accélérer, puis encore une fois, ça a pris 20 jours pour obtenir des rencontres de négociations supplémentaires. À un certain moment, le temps finit par manquer pour régler ces problèmes-là. Puis je vais donner le dernier exemple en disant l'offre sur le plancher d'emploi. Ça, c'est un problème qui est au cœur des revendications. Et ils le savent depuis le 27 mai. Ils ont attendu avant dimanche dernier pour nous faire une première offre. Alors, à un certain moment, nous, on ne veut pas faire la grève. C'est pas une vue de l'esprit, là, parce qu'il y a des étudiants qui souffrent de cet arrêt de travail-là. Ouais. Et nous, on travaille directement avec les étudiants, autant en recherche qu'en enseignement. Mais les professeurs également là, font des sacrifices importants dans le contexte de cet arrêt de travail-là. Il y a beaucoup de conférences qui sont suspendues, qui sont carrément annulées, des conférences qui étaient prévues depuis des années avec... vous savez que c'est difficile d'aller chercher des conférenciers internationaux. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui doivent tomber en raison de ce conflit de travail-là. Mais ce qui est très, très clair et qui explique pourquoi est-ce qu'on a une adhésion quand même assez importante de plusieurs étudiants, malgré le fait qu'ils soient affectés par la grève, c'est que les arguments qu'on met de l'avant pour fonder la légitimité des revendications, on les a rendus publics depuis le 27 mai 2022, puis on attend encore pour plusieurs d'entre eux des réponses satisfaisantes de la part de l'employeur.
Monsieur Lampron, je vous avais averti là-dessus. Mardi dernier, dans l'entrevue avec la vice-rectrice, je voulais donner l'opportunité de répondre à certaines déclarations, revendications de votre côté pour donner cette opportunité-là. Et évidemment, le but, c'est de donner parole égale aux deux côtés dans ce conflit-là.
Tout à fait.
On s'est donc entendu de faire la même chose avec vous. Je pense qu'on s'est aussi entendu sur le fait que de la façon dont l'université communique, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut vous donner l'opportunité de répondre, mis à part une qui est pas mal rassemblée, là, l'ensemble des communications de l'université depuis le début de ce conflit de travail-là. Et c'est-à-dire qu'on dit à maintes reprises que nous n'avons pas la capacité de payer pour vos demandes. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ben écoutez, il y a deux choses à dire d'une part. D'une part, là, dès le début, là, puis encore une fois, nos revendications, nous, on a joué la carte de la transparence justement pour pas se faire prendre dans cette espèce de débat-là là, en disant ils demandent uniquement une augmentation de salaire. Là. Je veux dire, c'est assez facile de voir que c'est pas le cas depuis le début. Notre cahier des charges est public. Nos arguments, nos données, en fait, qui font la légitimité de nos revendications, ils sont publics, ils sont sur le site web www.negospul.ca et ça depuis le 27 mai 2022 dernier, d'une part. D'autre part, l'université, malheureusement, là, a tenté, c'était sa ligne de communication. Pour moi, c'est très maladroit et c'est également malheureux. On s'attend à mieux de la part d'une institution d'enseignement supérieur du calibre de l'Université Laval, là, de réduire les revendications du syndicat portées par les professeurs et qui justifie une mobilisation historique des professeurs à la simple question salariale. C'est bien sûr plus que loin de la réalité, là, la question salariale puis les revendications sur le rattrapage salarial, qui est un problème réel, là, c'est un des quatre piliers, mais les quatre autres piliers, les trois autres piliers, pardon, ils sont toujours sur la table. Puis deux d'entre eux, là, on essaie toujours de trouver une voie de passage pour être capable de d'avoir une solution qui est satisfaisante à ces problèmes-là qui ne peuvent plus durer. Alors, sur la capacité de payer, nous, on a de notre côté là, mandaté un comité d'experts, là, des économistes, des membres de la Faculté des sciences de l'administration en comptabilité pour éplucher les états financiers. Parce que soyons clairs, là, dans une négociation, le patron, il va toujours dire qu'il n'y a pas la capacité d'obtenir, de donner des augmentations salariales. À la limite, c'est quelque chose qui est comme de bonne guerre, là. Mm-hmm. Mais le nerf de la guerre, c'est la transparence. C'est d'ailleurs une de nos revendications. On veut pas que les états financiers puis la capacité de payer, ça soit caché dans une boîte noire, là. Et donc, nous, on se tourne vers ce qui est public. Et ce qui est public, ce sont les états financiers de l'Université Laval depuis les dernières années. Et ce qu'on voit quand on analyse les états financiers, moi, je ne suis pas un expert sur la question, mais on a un comité, là, 5 collègues qui sont experts en la matière, qui ont épluché les états financiers et qui constatent que depuis, en 2018 et 2022, l'Université Laval, annuellement, en moyenne, a dégagé des surplus de 50 millions de dollars pour, quand on fait l'addition des surplus dégagés annuellement, ça monte à 257 millions de dollars. Alors, on a bien sûr soumis cet argument-là à la table de négociation. On a eu des rencontres avec le comité patronal, avec le vice-recteur d'Arvaux, avec le directeur des finances, Jacques Lachance. Et là, le problème, en fait, c'est qu'on essaie de nous montrer que, oui, mais ces fonds-là, on les a engagés dans d'autres comptes, par exemple les immobilisations, mais on n'a pas d'argument concret, en fait, qui nous permettent de croire qu'ils n'ont pas la capacité de payer dans le contexte où ils évoluent dans un environnement financier qui, depuis 4 ans, est très, très, très favorable. On a même eu un supplément, là, une année de 73,8 millions de dollars. Alors, dans ce contexte-là, l'argument de la capacité de payer, on le trouve court d'une part, et d'autre part, le fait qu'on n'a plus l'argent, c'est un peu comme invoquer sa propre turpitude. C'est-à-dire que les suppléments, c'est une question de choix financier. On a des suppléments, puis après ça, l'administration, elle décide qu'est-ce qu'elle va faire avec ces suppléments-là. On sait ce qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire elle n'a pas embauché suffisamment de profs, elle n'a pas fait en sorte de prendre ces suppléments-là pour augmenter les salaires au cours des 4 dernières années. Et dans ce contexte-là, c'est sûr que nous, on remet en cause l'argument en disant « Oui, mais cette année, ça va être l'apocalypse et il va y avoir un recul des revenus, un recul des inscriptions. » Et ça tombe au moment où il y a une mobilisation historique des membres. Ça devient un petit peu difficile, en fait, d'avaler cette pilule-là de la capacité de payer face à l'analyse qu'on a fait des états financiers. Alors, c'est là, notamment aussi, là, où ça justifie une bonne part du blocage.
Monsieur Lampron, le temps file. Donc, ma dernière question, je vais peut-être demander une réponse un peu plus brève, même si c'est une question dont la réponse pourrait probablement être beaucoup plus complexe. entendons-nous. Je pense que s'il y a une chose à retenir du côté des étudiants, c'est que l'inquiétude, c'est combien de temps ça va durer. Sommes-nous prêts d'un minimum, d'un avancé? Est-ce qu'il y a raison d'être optimiste pour les étudiants que leur session puisse être reprendre avec un parcours presque normal?
Moi, je pense que oui. Hier, on a eu une manifestation devant l'Assemblée nationale. On a eu des appuis importants de la part des représentants de tous les partis d'opposition. La ministre de l'Enseignement supérieur là, a fait une sortie en disant que ce qu'elle souhaitait, c'est que la session ne soit pas prolongée. Alors, écoutez, face à ce blocage-là et surtout face à les problèmes en tout cas, d'analyse des surplus financiers de l'Université Laval, ce qu'a fait la direction avec les surplus, il est possible que ça passe par une intervention politique. On ne le souhaite pas, évidemment. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une solution négociée qu'on va trouver entre nous là, mais à terme si ça passe par une intervention politique là, il faut sauver la session. Ouais. On n'est pas dans la zone où on va aller vers une annulation de la session. La vice-rectrice Bergeron et on est d'accord avec ça. Là, on a de la marge encore pour être capable de sauver la session, là, même si la grève devait se poursuivre au-delà de cette semaine. Mais il est temps que là, il y a urgence à agir et urgence de trouver la solution aux problèmes qui doivent être réglés dans le cadre de cette négociation-là.
Monsieur Lampron, Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval, merci beaucoup de votre temps.
Ça m'a fait plaisir, au plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. On va prendre une rapide pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Le temps a filé, donc je vous garantis pas, on va regarder ce qu'on fait en revenant.
Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Trap, 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 wait on, hey. Dans le
t'en faisais ça comme si c'était un jeu sur vidéo. Ouais. Gars méconnu, ben ben grand chose d'autre que le nom de la plaque. Hey, si dans le fond, un matin fait chaud dans le fond du bloc.
Hey. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey,
hey, I don't give a shit pour danser. Hey, I don't give a damn pour penser. Oh. On my way.
C'est que je veux.
Hey, c'est qui le blé? Dans le temps, je marche 3-4 heures par jour. Aujourd'hui, je suis tombé en amour. Hey, you stop it pour le mieux, ok. Hey, ah, ok, alright, ok.
Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens.
Hey, catch my late night en train de lire un livre dans mon cours. Hey, catch my late night en train de lire un livre. Hey, catch my late night en train de lire un livre dans le cours. Yeah, catch my late night en train de lire un livre dans le cours. Et tu dis,
dans les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose de plus. Plus en plus dans une heure d'assis en avant du bus. Oh, et puis ça file pour le mieux. Ok, hey, ok, alright, ok.
Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey,
yo, on fait nos biz comme l'écrivain. Les hypothèques sont longues comme des méridiens. J'ai déjà fait du mal, maintenant je veux faire du bien. Je suis pas strap, j'ai tout à foutre, j'ai beaucoup à perdre. Hey, des fuck I give all day, all day. Oublie ton mauvais plan, on veut des bonnes idées. Hey, pense deux minutes que tu veux propager. Y'a plus que juste ta vie que tu peux endommager. Entre en prison, sors de la prison, retourne en prison d'air. Or fais ton code, retourne en prison, t'es soit fils ton d'air. Pense à ton épouse, on fait nos missions. Hey, la porte est grande ouverte, te souviens-tu du chemin de la maison? Hey,
je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens.
L'être humain n'est pas épanché pour parler bien, bien, parce qu'on laisse mourir 600 enfants à la seconde de la fête, on mange comme des cochons. On est tous des meurtriers, puis je veux plus entendre parler de cette question.
On a entendu dire que le dessert préféré de Félix-Antoine Audet, c'est le Oreo. C'est drabe, hein? C'est plate, c'est tout.
Midi 55 sur les ondes de Chiz. On va faire un vraiment court segment, là, vous me pardonnerez, là, mais effectivement, une entrevue qui s'est un peu étirée. On va donc prendre un petit 3-4 minutes. Et je voulais absolument parler, j'ai pas eu l'occasion, je voulais le faire hier, parler d'un événement dans le monde de la radio. Là, ben oui, vous me permettrez d'être de jouer au fafan de radio, parce que si j'en fais, c'est que j'aime c'est ça, la radio. Oui. On a appris, il y a environ un an, une nouvelle d'importance majeure dans le monde de la radio. Paul Arcand, au 98.5 à la Cogeco Montréal, qui a annoncé que après la fin de son contrat, il quitterait son emploi comme morning man de la station. Paul Arcand, qui est à la barre de l'émission, rappelons-le, la plus écoutée au Canada. On l'appelle le roi des ondes pour une raison. Il est une habitude pour tous les Québécois depuis presque 20 ans. Plusieurs segments qui sont écoutés, peu importe où vous êtes, où dans le Québec. Là. Il y a des bonnes chances que vous ayez déjà écouté, si vous vous intéressez à l'actualité ou à l'économie, soit une chronique de Pierre-Yves McSween avec Paul Arcand, ou une chronique de son chroniqueur gouvernemental, là, que ça a été Bernard Drainville, ça a été, là c'est Jonathan Trudeau, peu importe. C'est deux des extraits les plus écoutés à travers le Québec dans le monde de la radio. Paul Arcand, c'est une figure emblématique de ce milieu-là. Et on a annoncé du côté du 98.5 hier matin en direct vers 8h15 son successeur. Les rumeurs se multiplient à cet égard depuis quelques temps déjà. On s'en doutait bien, mais ça a été confirmé. C'est le chroniqueur de la presse et animateur de l'émission du retour du 98.5, Patrick Lagacé, qui va lui succéder. Patrick Lagacé qui a un profil, et ça a été une des raisons justifiées par Pierre Martineau, qui est le président de Cogeco Média, à savoir pourquoi on avait pris cette décision-là. Patrick Lagacé, qui a un profil très journalistique, un peu comme Paul Arcand, qui s'est rebondi rapidement dans l'actualité. C'est une grosse décision, bien évidemment, de remplacer un animateur aussi légendaire dans un média, la radio, qui est un média d'habitude. Les gens n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes. Je l'ai rapidement réalisé depuis que je suis rentré dans ce merveilleux monde. Eh bien, toutes les chances qui... toutes les bonnes chances sont envoyées évidemment à Patrick Lagacé, qui aura à se lever à 3h du matin pour les nombreuses prochaines années, souhaitons-lui.
Ça va changer de l'émission du retour en termes de réveil. Là.
C'est un autre beat de vie, mais vraiment, vraiment un changement majeur dans le monde médiatique, dans la scène médiatique québécoise. Je pense qu'il méritait d'être noté. Surtout de noter toute l'admiration sans borne que je tiens à Paul Arcan. Un homme absolument incroyable que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est un travaillant acharné. Vraiment, vraiment une figure emblématique qui mérite d'être reconnue pour de nombreuses années au Québec. Merci pour tout, Paul Arcan. Le premier contact avec la radio que j'ai eu dans ma vie. On va prendre une rapide, courte pause publicitaire et musicale au retour. Ben, il est là, il nous attend, il est à côté de nous, il me fait des yeux méchants. C'est notre chroniqueur économique, Nicolas Leclerc.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Je marche et creuse, de trop ce que je trouve.